Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 2 février, bonne journée, bienvenue au 98.5. Ce matin, un ciel quand même qui est un peu nuageux, avec des températures très confortables. C'est un changement radical, c'est autour de moins 1 degré. Et on prévoit d'ailleurs aujourd'hui qu'il y aura un petit peu de soleil, beaucoup de nuages, avec un maximum prévu de 3 degrés. Ce soir et cette nuit, de la pluie intermittente, qui va devenir de la neige au cours de la nuit. Il y a un potentiel dans certains coins pour de la pluie verglaçante avec un minimum de zéro. Et pour demain, jeudi, pour Montréal, ça varie le long du fleuve, là, mais on parle de neige et d'accumulation de 5 à 10 cm, les températures qui vont atteindre au cours de l'après-midi environ moins 6 degrés. Donc, ça va se refroidir et la nuit autour de moins 12. Et finalement, vendredi, on parle de neige encore une fois, une fin de bordée de neige, avec un maximum autour de moins 10 degrés. Donc, en résumé, les précipitations vont commencer ce soir, la nuit prochaine, et demain jeudi, donc, on aura de la neige un peu toute la journée, prévoit même de la poudrerie à certains endroits. J'ai envie de commencer ce matin par le secteur de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Là, on a parlé des gyms, très bien, des saunas, merveilleux, des sports qui reprennent pour les adultes, parfait. On viendra sur le recul du gouvernement concernant la taxe santé pour les non-vaccinés. Mais deux, trois choses ce matin concernant le monde de l'éducation. D'abord, on se rend compte globalement que la campagne de vaccination a comme frappé un certain plateau. Je regardais les chiffres ce matin et c'est assez clair, là. Quand vous regardez, par exemple, les gens qui ont reçu la troisième dose, chez les 60 ans et plus, c'est 80 %. Chez les gens de 40 à 60 ans, c'est 50 %. Et donc, les plus jeunes aussi, mais il y a des questions de délai dans ça. Et la vaccination tout court chez les enfants de 5 à 11 ans, c'est un plafond autour de 62 %. Ça bouge pas beaucoup. Et là, on sait qu'il y a une campagne pour essayer de convaincre des gens d'aller se faire vacciner. Et vous avez beaucoup de parents, là, ça, c'est assez clair, qui ont été vaccinés une fois, deux fois, dans certains cas trois fois, mais qui sont pas très chauds à l'idée de faire vacciner leur enfant. Alors, premier constat, espèce de plafond en vaccination. Deuxième, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le nombre de cas dans les classes au Québec qui touchent des enfants puis des professeurs testés positifs à la COVID. Dans la presse ce matin, on nous a dit que vendredi dernier, 47 700 élèves et 4 500 enseignants étaient forcés de rester à la maison en raison d'un test positif ou d'un contact avec une personne atteinte de la COVID. Ce sont évidemment les élèves du primaire qui sont absents en plus grand nombre, mais il y a aussi des cas au secondaire. Au total, c'est 3,5 % des élèves du Québec là, qui ne peuvent être à l'école. Et il y a également des élèves qui sont absents aussi pour d'autres raisons que la COVID. Puis je vais joindre à ces informations un courriel que j'ai reçu d'une directrice qui va résumer un peu ce que c'est que la vie dans nos écoles actuellement. Elle dit qu'elle est directrice depuis 20 ans et depuis le retour, après le congé de Noël, à chaque semaine, j'ai des enseignants qui sont positifs, leurs enfants, en plus des parents et des élèves. À chaque jour, j'ai un paquet d'élèves absents. Et là, je ne parle pas des éducateurs et éducatrices au service de garde. Ce sera bientôt la remise des bulletins. Comment évaluer la performance cette année? Je crois que M. Roberge, malgré le fait qu'il nous répète sans cesse qu'il a enseigné pendant 17 ans et qu'il a ouvert les fenêtres, devrait sortir de sa tour. Je devrais être un leader pédagogique, mais présentement, je suis une pro pour passer des tests rapides. Nous devons compléter, à la demande du ministère, deux fois par semaine, le rapport sur le nombre de personnels absents, ceux qui font la prestation de travail, COVID, pas COVID, c'est notre réalité. En terminant, malgré tout cela, j'adore mon métier. Alors, c'est peut-être un côté un peu plus sombre de voir, puis là, avec tout l'impact que ça a pour les parents, pour gérer ça, pour les directions d'école, pour les profs, qui se retrouvent avec des élèves absents pendant une certaine période de temps. Puis on a beaucoup parlé aussi de la gestion des cas. Et ce matin, Le Soleil raconte l'histoire d'un enseignant au secondaire qui a attrapé la COVID malgré la vaccination après 5 jours. Donc, il a testé encore positif. Il a averti sa direction de l'école qu'il avait toujours des symptômes, mais pas de fièvre. Puis on lui a dit de revenir quand même à l'école, sinon il ne serait pas payé. Alors qu'il est encore positif, puis avec quelques symptômes. Je vous raconte l'autre histoire, qui est une employée d'un CIUS qui a eu la COVID. Et j'en ai parlé cette semaine, c'était dans Le Devoir aussi. Il y a plusieurs cas, donc, de gens qui se retrouvent en quarantaine, mais qui ne sont pas payés. Et donc, elle a eu la COVID, ses garçons ont eu la COVID. Et elle a commencé un cycle d'isolement. Puis il y a eu un peu de télétravail à travers tout ça. Et on lui a dit finalement, la semaine dernière, qu'elle ne serait pas payée en raison d'une récente directive ministérielle. Elle travaille à temps partiel, 4 jours par semaine, donc elle n'a pas de congé maladie. Je sais que le ministre Christian Dubé nous a dit cette semaine qu'il était pour regarder ça d'un peu plus près, là, dans la machine. Mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette application, semble-t-il, assez bureaucratique. As-tu attrapé la COVID au travail, pas au travail, sur l'enfant qui te l'a donné? Ça devient comme ça pas mal difficile à gérer. Alors, il y a quand même, disons, un niveau d'interrogation sur ce qui se passe dans les écoles. Et puis là, vous avez Québec qui annonce l'envoi de 1000 échangeurs d'air pour les écoles afin de diminuer les risques de transmission. Je ne repartirai pas tout le débat sur la ventilation, sur la transmission du virus. Mais il me semble que les experts, par-dessus experts, ont à peu près tous eu le discours, sauf à la santé publique, sur l'importance de ventiler puis d'installer dans des classes où il n'y a pas de ventilation mécanique ces fameux échangeurs d'air. Je vais en parler avec le docteur Boileau ce matin, là. Mais, puis tu sais, là, je comprends aujourd'hui, c'est doux, là, mais on a eu un mois de janvier assez froid, puis là, j'ai plein de témoignages sur, disons, le degré de température dans les classes. Voilà pour le volet scolaire. Parlons maintenant des mesures qui ont été annoncées hier. Le premier élément, c'est évidemment le recul, pas de retour en arrière, du premier ministre Legault concernant la taxe santé. On peut comprendre que les sondages ont joué un rôle dans sa décision. Il y a du sentir, là, puis pas juste la perception, mais lecture des sondages, que les gens n'étaient pas très, très chauds à l'idée. Deuxièmement, beau dire que le projet de loi était prêt, ça demeure difficile d'application. Et l'argument ultime, c'est de dire il y a des tensions dans la population, il y a un niveau d'écœurantite assez solide, puis de appelons ça, de fragilité du tissu social, que les gens en endurent de moins en moins, et ont de moins en moins de patience. Donc, pour ne pas provoquer les non-vaccinés, on laisse tomber cette mesure. C'est la deuxième fois qu'on laisse tomber une mesure. On menaçait de congédier les gens dans le réseau de la santé qui ne seraient pas vaccinés. On s'est rendu compte que ce n'était pas faisable. Donc, des fois, t'es mieux de reculer que de t'entêter puis de foncer dans le mur. Sauf que c'est sûr que ça envoie un drôle de message dans la population. Vous savez, le ministre Pierre Fitzgibbon qui sort, qui dit « OK, c'est pas une bonne idée, mais on devrait peut-être élargir l'application du passeport vaccinal. » Je vous rappelle que ceux qui protestent et leurs sympathisants avec les camionneurs, c'est pas juste là, l'obligation vaccinale pour traverser la frontière. C'est la totalité des mesures sanitaires. Fait que là, vous allez avoir des protestataires qui vont vous demander qu'il n'y ait pas de passeport vaccinal, qu'ils puissent entrer dans les restaurants comme ils le veulent, dans les grandes surfaces, comme ils le veulent, à la Société des alcools, ça va faire partie des revendications. Puis est-ce que Québec va céder là-dessus, encore une fois, pour ne pas provoquer de la confrontation? Pas pour l'instant. dit le gouvernement, les autres mesures vont s'appliquer. La bonne nouvelle, c'est que les gyms vont rouvrir avec certaines règles, et c'est pas la même chose, le sport reprend. Fait que déjà, il y a quand même une certaine amélioration. Si on parle donc de ces règles de santé publique, on va essayer de se faire expliquer ça ce matin, là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a comme deux vitesses. Si vous faites du sport à l'école, il y a une directive, puis si vous faites du sport dans ce qu'on appelle le civil, là, hockey mineur, par exemple, ben c'est autre chose. Alors, dans un cas, le couvre-visage est obligatoire. Si c'est intense, tu peux l'enlever. Puis, en fonction de l'âge aussi des enfants, il y a une directive. Fait que là, ça serait encore important que les gens de la santé publique soient assez clairs, puis que ça soit pas trop compliqué, puis qu'il n'y ait pas trop de sous-groupes si on veut que ça s'applique. Puis comme le disait Jocelyn Thibault hier de Hockey Québec, ce qu'on se rend compte, c'est que tu as une directive qui arrive de la santé publique, puis après ça, quand ça décline dans les associations, il y en a qui en mettent un peu plus ou qui veulent se montrer plus stricts, fait que ça peut varier. Mais en tout cas, disons que pour le sport, là, ça mérite des éclaircissements ce matin. Alors, on se retrouve en plus avec cette manifestation donc à Ottawa qui est toujours en cours. On comprend qu'ils sont à peu près 50 plus 200 sympathisants. Deux arrestations hier, comme le disait Bénédicte. Et le centre-ville d'Ottawa qui est toujours paralysé. Nous sommes mercredi. Et paraît-il qu'il y en a d'autres qui se préparent pour une deuxième phase en fin de semaine, toujours à Ottawa. Là, je ne parle même pas de Québec. Je comprends le droit de manifester et je sais que la position qu'il faut défendre maintenant, c'est la bienveillance puis saisir l'ampleur des revendications. On ne peut pas trop les critiquer parce que eux ont le droit de nous envoyer promener, eux ont le droit d'harceler les médias, eux ont le droit de se comporter de façon agressive, eux ont le droit de perturber les commerçants, ont le droit d'emmerder les citoyens qui vivent au centre-ville. Il y en a qui paralysent le transport de nourriture dans le sud de l'Alberta. Mais non, on ne peut pas rien dire. Alors, tu dis, mais pendant combien de temps il faut endurer cette activité-là qui dépasse la simple protestation-là, qui est une occupation d'un centre-ville, pas n'importe lequel, Ottawa. Et là, vous avez, de l'autre côté, la gang de Rambo qui se prépare à descendre à l'Assemblée nationale, ou en tout cas à Québec. Puis là, on nous dit, ben d'abord, les merdias, touchez-vous. Bonhomme Carnaval, on n'ira pas de l'écœurer. Puis là, tu dis, OK, mais comment est-ce que tu vas te promener avec des poids lourds, toi, dans le Vieux-Québec, autour du Parlement? Est-ce qu'on va les laisser se diriger vers là? Puis pendant combien de temps on va tolérer ça? Le maire de Québec, premier dossier majeur, là, qui dit comprendre. Tout le monde comprend, là. Une méga compréhension au Québec sur le droit de manifester. Mais en même temps, tu sais, tout le monde dans l'industrie touristique, dans le commerce au détail, dans la restauration, passe des moments difficiles. Les gens ont besoin de se refaire, là. Fait que la liberté de Rambo puis de sa troupe, on comprend. Puis on sait qu'ils fréquentent, on le voit là sur les réseaux sociaux, un certain nombre de complotistes avec des théories, permettrait de pas trop les qualifier, mais bon, ça le regarde. Puis quoi, ils vont venir comme ça déranger d'honnêtes travailleurs. On voit que la FTQ Construction a compris, puis il n'y a pas l'intention de trop les soutenir. Au contraire, puis ils rappellent justement, parce qu'ils pensent aux gens du réseau de la santé, qui est encore extrêmement fragile, parce que ça, c'est l'autre réalité ce matin. Oui, ça baisse en termes d'hospitalisation, mais la pression demeure. Puis on souhaite tous, puis on fera le procès du réseau de la santé comme... C'est le cas souvent. Manque de lits, manque de personnel. Mais là, il y a une situation de crise. En parlant de ça, commission parlementaire à Québec du projet de loi pour permettre un accès plus rapide aux Québécois à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé. Et c'est un enjeu important. On a vu les deux syndicats de médecins, là, les spécialistes et les omnipraticiens, dire clairement au gouvernement, puis se braquer dans le sens de dire « c'est pas acceptable ». Tout le monde est pour une négociation, tout le monde est pour un modèle régional, tout le monde est pour des assouplissements. Ce que le gouvernement a dit, on veut savoir ce que les médecins font, on a besoin de données, puis on veut être capable de diriger le patient le plus rapidement possible vers un professionnel de la santé. Puis ça nous prend la matière première, les données de la RAMQ, que font les médecins, ils voient combien de patients, avoir ces informations-là, puis que dans la machine, on soit capable de trouver des plages. Alors, évidemment, les médecins, je vais parler avec la Fédération des médecins omnipraticiens ce matin, ils ne veulent rien savoir de ça, considèrent que ça ne regarde pas le gouvernement, puis que ça va écœurer les médecins, puis ça va avoir une espèce d'effet contraire, puis que les patients, ce n'est pas de la marchandise, qu'on a besoin d'étiqueter. Sauf que la réalité demeure la même. Là. Moi, je veux bien là, qu'on trouve des solutions de compromis, mais l'accès, pas la qualité des soins, mais l'accès au traitement, ça demeure encore extrêmement préoccupant pour bien des gens. Puis on a vu des expériences qui fonctionnent. Je parlais d'un cas hier, une ligne pour des enfants à Montréal. C'est un succès. C'est fréquenté, puis il y a des résultats. Alors, est-ce que le ministre fera des amendements? Peut-être. C'est quoi la voie de passage? Je ne le sais pas trop. Mais on va parler donc avec le syndicat des médecins omnipraticiens ce matin. Jérémy Gabriel qui poursuit encore Mike Ward, on en a parlé tantôt. Et on va suivre de près, évidemment, le vote aujourd'hui sur le leadership de Erin O'Toole, le chef des conservateurs. Toutes sortes de rumeurs circulent. Certains prétendent qu'il y a assez de votes pour passer, mais en même temps que ça serait faible. Et qu'il y a des gens qui parlent pas trop, qui refusent de se prononcer, mais qui lui jouent dans le dos. Alors, il y a un leadership minimalement affaibli, pour ne pas dire terminé. Et que O'Toole parte, c'est également la question sur l'avenir du Parti conservateur. Est-ce qu'on est capable de concilier des gens qui sont d'une droite plus progressiste, des gens qui sont plus dans la mouvance, je dirais, de la machine bleue de Brian Mulroney, que des gens qui sont plus vers des extrêmes religieux ou encore des positions, on le vit avec Paul Lièvre, par exemple. Alors, est-ce que ce monde-là, ça peut vivre dans le même parti? Puis en bout de ligne, le grand gagnant de toute l'opération, est-ce que c'est pas Justin Trudeau qui se retrouve devant une opposition qui n'a pas l'air d'être capable de s'unir pour lui faire une lutte serrée dans les prochains mois, les prochaines années?
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, de nouveaux assouplissements ont été annoncés hier, ce qui veut dire que dès le 14 février, par exemple, eh bien, les gyms vont pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. Il y a toujours des règles à respecter, les spas, la même chose. Et puis, les adultes vont pouvoir retrouver également la pratique d'activité comme le sport. Mais disons qu'il y a encore des zones assez grises concernant les règles de santé publique. Et depuis hier, puis même hier soir, là, il y a des gens qui essaient de comprendre exactement quelles sont les directives, quelles sont les règles. Docteur Luc Boileau est avec nous, le directeur national de la santé publique. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Écoutez, j'essaie juste de comprendre certaines règles, là, puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent ce matin là, qui aimeraient savoir exactement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Pour ce qui est de la pratique du sport, puis on va essayer de prendre un exemple là, qui est, disons, la pratique du hockey, est-ce qu'il y a une différence entre jouer dans le cadre scolaire ou jouer dans le cadre civil, donc une ligue de hockey mineure pour un jeune, pour ce qui est de porter le masque ou pas?
C'est la même chose. Les règles, M. Arcand, c'est la même chose partout. Il faut l'imaginer juste dans l'esprit là, de dire on veut diminuer les risques de contagion d'un enfant à l'autre ou d'un enfant avec le coach. C'est ça le but. Là. De sorte que ce qu'on invite les gens, c'est à porter le masque à peu près tout le temps. Là, on comprend qu'il y a des situations où ça peut être très difficile. Là. Par exemple, jouer au hockey, faire un sport très intense. Mais d'une façon générale, on invite les gens à porter le masque tout le temps. Et en passant, en ce moment, comme pour les groupes plus âgés, de civils, il n'est pas supposé avoir de compétition. Je comprends qu'on peut s'entraîner fort, là, mais il n'est pas supposé avoir de compétition. On n'est pas supposé rentrer sur le banc à toute vitesse puis retourner sur la glace pour pouvoir se remettre au jeu vite. Là, on est dans un espace où est-ce que on stimule l'entraînement, on joue, Mais ça va venir, là, les compétitions, c'est ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, on pourra réajuster les règles. Mais en ce moment, on recommande le port du masque. En fait, on l'oblige, mais moi, je vous dis, on le recommande là, pour que les parents, comme les enfants ou les adolescents, et même les adultes, puissent être conscients qu'il y a effectivement un risque de transmission et on veut le diminuer.
OK, ça veut dire... Parce que là, encore, je vous le dis, là, hier soir, les gens avaient l'impression que le port du masque pendant l'activité sportive était obligatoire quand c'est scolaire et que ce ne l'était pas pour les sports civils. Donc, vous me dites, école, hockey mineur, c'est la même règle.
C'est la même règle, puis c'est le même jugement appliqué. Parce que, bon, d'abord, le virus, il est toujours là, même s'il n'est vraiment pas parti, là, puis avec le BA2 qui s'annonce, ça peut être encore plus à risque. Alors, l'idée, c'est de diminuer les contacts pour diminuer, effectivement, de porter l'infection, de la donner à un autre. Puis, on comprend que les enfants sont rarement très gravement malades, ça peut arriver, mais c'est surtout que s'ils sont infectés, qu'ils donnent ça à d'autres et à d'autres et à d'autres, on va finir par attaquer du monde qui sont très fragiles, puis on va recommencer la charge dans nos hôpitaux. Donc, le message doit être clair. C'est on insiste pour le port du masque dans toutes les activités, mais il y a des choses, M. Arcan, vous savez, les gens sont capables d'user de leur jugement quand ils vont jouer, par exemple, au tennis, là, à deux personnes à la distance normale de jouer au tennis, puis qui disent, ça nous tente-tu d'enlever le masque? Moi, je n'irais pas leur dire, regarde, il faut absolument mettre un masque. C'est une question de jugement. Pour les jeunes qui jouent ensemble, ben, même dans les sports de niveau parascolaire ou d'autres sports plus adultes, là, je vais vous dire, pour les jeunes et en particulier, comme pour les adultes, c'est de porter le masque. Et particulièrement si on est proche des autres et en contact, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Mais la situation va évoluer puis on espère pouvoir être plus libertin de ce côté-là. Mais en ce moment, là, c'est quand même encore un risque élevé là, dans la population.
OK, mais sauf erreur, quand on a permis, après une autre vague dans le passé, la reprise des activités, il n'y avait pas cette obligation-là de porter le masque. Parce que quoi, le variant est plus contagieux, c'est pour ça?
Exactement. Dans les autres phases préalablement, le taux de contagion était beaucoup plus, mais vraiment plus faible que le Omicron. Et pensez à son cousin, là, le BA2, là, qui était encore pire. Ça, là, c'est du jamais vu là, dans les coronavirus. Alors, on est dans un niveau de contagion extrêmement élevé et c'est pour ça qu'on insiste comme ça en ce moment. Et je comprends que c'est différent d'avant, mais il faut quand même vivre avec son contexte de micron. Là. C'est pas la même chose qu'avant, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Et je pense que tout le monde est capable d'user de son jugement puis de rendre ça le plus compatible possible avec une diminution des risques de transmission. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents, les grands-parents, la communauté. Allons-y comme ça. Et la progression va nous faire du bien, bien sûr, parce que ça permet aux jeunes puis aux gens aussi, les adultes qui veulent faire du sport, de pouvoir en faire. Mais il faut être de son temps. Puis son temps en ce moment, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de circulation du virus.
OK. Mais est-ce que vous reconnaissez que parfois, il y a de la confusion entre le moment où vous faites l'annonce puis que ça décline après ça. Nous, on appelle au bureau de la ministre qui nous réfère à vous, puis on n'a pas de réponse. Puis après ça, elle a dit, ben moi, je ne prendrai pas chaleur. C'est une décision de la santé publique. Puis là, les gens regardent ça, puis ils sont tout mêlés.
Oui. Ben M. Arcan, je regrette que ce soit comme ça, parce que les messages, en tout cas, la manière dont on tente de les donner, moi en particulier, mais je ne suis pas seul, c'est de les rendre les plus simples possibles. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs questions qui tournent autour de ça. Et l'opportunité que vous me donnez ce matin d'éclaircir ça, j'en suis très reconnaissant et on va continuer à le faire pour justement limiter cette surinterprétation ou ces inquiétudes qui viennent. Alors, on n'est pas dans un esprit où on veut rendre les choses très techniques, très compliquées, que dans tel sport on va faire ça, tel autre on fera pas ça, etc. Mais tu sais, le jugement, là, quelqu'un qui fait de la trampoline et qui saute à 20 pieds dans les airs, là, qui saute tout seul, là, puis qu'il y a un masque. À un moment donné, là, s'il pense que c'est pas bien pour lui parce que ça peut lui envoler dans les yeux, ben il peut l'enlever. Là. C'est pas moi qui va courir après pour dire que c'est pas une bonne idée là, qu'il fasse ça. Mais quand il débarque, s'il est avec d'autres, il le reporte. C'est une question de nous assurer que tout ça se passe dans une compréhension qu'on ne veut pas et que les gens ne veulent pas être porteurs d'un virus et le donner à d'autres ou l'attraper. Donc, quand on est dans de la proximité, là, à l'intérieur des 2 mètres, tout ça, on le porte et c'est ça qu'il faut, là, ici.
OK. Je vais vous parler des écoles. Ce matin, on peut lire là que dans la presse qu'il y avait 48 000 élèves isolés en raison de la COVID vendredi dernier. environ 4500 enseignants forcés de rester à la maison pour la même chose. Il y a à peu près 6 élèves sur 10 qui sont vaccinés au primaire, puis on sent un certain plafonnement. Êtes-vous inquiet de voir ces cas-là, puis c'est peut-être pas le portrait complet non plus, puis de voir que la vaccination plafonne?
Bon, d'abord, les 48 000, c'est un chiffre qui est impressionnant, mais quand on le ramène sur à peu près 1 300 000 enfants, ça reste en bas de 5 %, donc c'est autour de 3,5 %, là, je veux pas faire trop de chiffres, puis c'est même la moitié de ça pour les enseignants. Alors, ces chiffres-là sont, d'une certaine manière, rassurants. Je m'excuse, là, mais parce que ça peut apparaître un peu à contresens, mais c'est relativement rassurant dans le contexte d'une telle circulation du virus. Alors, on n'a pas un signal ici d'alerte énorme. C'est plutôt quelque chose auquel on s'attendait. Maintenant, c'est sûr que on encourage les parents à poursuivre la vaccination des enfants. Vous le soulignez, il y a un plateau qui s'est atteint autour de 60-62%. Mais je crois que quand on regarde l'efficacité du vaccin pour les adultes, mais aussi pour les enfants, c'est très bon. Et les enfants, même s'ils sont pas très à risque, il y en a quand même un certain nombre de risques. Et il y a un risque aussi d'être le vecteur de transmission auprès des parents, des autres amis, des grands-parents en particulier, et de la famille élargie. Alors, c'est pour ça qu'il faut encourager la vaccination. Et c'est une vaccination très sécure. C'est une vaccination solidement démontrée dans les études jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de souci de ce côté. Et ça évite de progresser des fois, malheureusement, vers des syndromes inflammatoires multisystémiques qui sont pas drôles à avoir pour les enfants, qui les amènent même aux soins intensifs. Donc, quand on est vacciné, ce risque-là diminue énormément.
Mais deux ou trois questions là-dessus. D'abord, je comprends que c'est 3,5 % des élèves, mais si on fait le total depuis, je sais pas, la rentrée scolaire à l'automne, on va avoir combien d'enfants, vous croyez, qui vont tester positif à la COVID ou qui vont avoir des symptômes tout court de la COVID?
Ça, c'est la question qu'on voudrait tous pouvoir répondre parce qu'on n'a pas une idée précise, pas juste ici au Québec, là, partout dans le monde, sur la réelle charge de contagion ou de contamination qu'il y a eu pour les différents groupes de population, incluant les enfants, là, pour répondre à votre question. Plusieurs pédiatres spécialisés vont dire que c'est probablement déjà un 25-30% de la population des enfants, sans doute plus à Montréal qu'ailleurs, qui ont eu l'infection. Alors, de 3,5% actuellement, d'absence qu'on estime être liée à la COVID, ça peut être moins que ça, parce qu'il y a des fois, on s'isole parce qu'on est dans un contact familial, c'est pas qu'on le fait, mais le risque de le contracter est plus élevé. Alors, ce ne sont pas des chiffres qui sont pour l'instant alarmants, mais ça peut augmenter. Hein. Nous savons que c'est possible que ça augmente, mais ça, c'est pas très différent de ce que nous avions avant. En fait, je vais vous dire, M. Arcan, c'est bien moindre que ce que nous avions au mois de décembre, où c'était 11%. Alors, on est trois fois moins qu'au mois de décembre, dans un contexte où ce virus circule autant. On a un signal que les mesures qui ont été prises, le port du masque en particulier, ont été jusqu'à maintenant très efficaces pour les deux semaines de scolarité que les gens ont depuis le 17 janvier, je crois.
Et vous êtes toujours convaincu qu'on n'a pas besoin d'installer des échangeurs d'air, même si Québec va en livrer 1000 de plus pour un total de 1500, là, qu'il n'y a pas un problème de ventilation dans les écoles, dans les classes, qui aurait pu être corrigé avant?
Moi, je pense qu'il y a un problème de ventilation dans plusieurs classes. Vous l'avez souligné plusieurs fois. Le ministère de l'Éducation le reconnaît. Puis ce que j'en comprends, là, parce qu'on est en contact avec eux, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour justement surveiller ça avec les capteurs de CO2 et d'envoyer des échangeurs d'air, s'assurer de leur installation rapide dans les endroits où il peut y avoir plus de risques. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie de base là, de ventilation, d'échangeurs d'air, d'ouvrir les fenêtres, pas quand il fait moins 30, donc je comprends, faut rendre les enfants inconfortables, ni les professeurs, ça suffit en ce moment pour assurer une ventilation qui permet de garder une ambiance sécuritaire pour la question du virus Omicron, et en particulier si les enfants, comme les professeurs, et c'est le cas, portent le masque, en tout cas au niveau scolaire, portent le masque en présence dans la classe et également dans leurs activités parascolaires. Ils l'enlèvent pour manger le midi, puis vous savez, des enfants, ça mange assez vite, là, donc il n'y a pas on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on met le feu. Là. On le sait là, qu'il y a toujours des risques, bien sûr, mais on les diminue beaucoup. Et quant à moi, les situations sont sécuritaires et surtout essentielles. Hein. Retourner à l'école, c'est essentiel pour toutes les raisons qu'on a déjà dites.
Oui, mais on les aurait installés plus rapidement, ces appareils, pour améliorer la qualité de l'air. Ça n'aurait pas été négatif non plus. Si on avait, comme en Ontario, décidé d'équiper les écoles, ça n'aurait pas nuit non plus.
Ben, il y a une différence entre échangeur d'air et purificateur d'air. Là. Ici, on parle d'échangeur d'air, d'extracteur d'air, d'améliorer les systèmes de ventilation. Mais nous, on n'en est pas sur les purificateurs d'air. Les purificateurs d'air, ça peut avoir une utilité dans des contextes très, très particuliers, avec des patients, par exemple, dans un hôpital, un médecin à son chevet, ou même dans les bureaux de dentistes. Mais dans des classes, actuellement, il est assez bien démontré, là, quand même. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais soyez assurés que je regarde ça avec très grande attention, avec beaucoup d'experts, et on est conscient qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que c'est mieux, mais ce n'est pas mieux dans le milieu scolaire. Ça ne nous aidera pas. Ça pourrait même nous nuire, à la limite, pour l'instant, avec ce qu'on en connaît. Donc ça, il ne faut pas aller vers ça. Par contre, les échangeurs d'air, comme vous le dites, ça, c'est quelque chose de bien. Et le milieu de l'éducation, je pense, fait tous les efforts en ce moment pour assurer que ce soit installé plus rapidement.
OK. Juste que ce soit clair aussi. Si quelqu'un a développé la COVID, je comprends bien que pour avoir la dose supplémentaire, il faut attendre idéalement 3 mois.
Idéalement, 3 mois, c'est-à-dire on estime que les gens... C'est quelqu'un qui a vraiment eu une COVID, là, M. Arcand, là, pas quelqu'un qui pense qu'il a eu la COVID.
Non, mais quelqu'un qui était malade. Là.
Quelqu'un qui a été malade, qui a eu un test positif, particulièrement un test PCR positif, ça, c'est clair que l'utilité d'une dose supplémentaire en ce moment, c'est-à-dire, pas en ce moment, excusez-moi, mais à l'intérieur des quelques 8 semaines qui suivent, c'est pas très grand. Il est mieux d'en profiter au moins 8 semaines après. Quelqu'un qui a été très malade et qui a eu un test à la maison positif, là, vous savez, les tests rapides, disons, ben, il est probablement qu'il est dans cette même situation. Mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai eu tout un syndrome, là, j'ai été malade, j'ai coulé du nez, tout ça. Ça, là, c'est pas sûr que c'est la COVID. Il y a eu d'autres maladies qui ont circulé, le virus respiratoire, le syncytial, l'influenza, etc. Il y en a d'autres. Alors, pour ces personnes-là, allez vous faire vacciner. Et franchement, actuellement, la dose de l'appel, c'est la solution, d'abord pour la collectivité, mais pour chaque personne ici. Allez vous faire vacciner et allez vous recevoir votre dose de rappel et ceux qui ont eu une COVID et qui en sont très assurés, prenez un rendez-vous déjà pour, je ne sais pas si c'est la fin février ou mars ou avril, que ça va faire de 8 à 12 semaines. Prenez un rendez-vous, c'est important, on en a tous besoin.
OK, juste comprendre aussi, là, la période de quarantaine, d'isolement, c'est 5 jours?
La période d'isolement, c'est pas 5 jours. On dit, c'est-à-dire, je vais reprendre ça, la période où on est vraiment contagieux, c'est probablement assez serré autour du moment où on commence nos symptômes, probablement un petit peu avant et quelques jours après. Après ça, ça diminue. Beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, on va en faire même ici dans notre propre contexte au Québec. Mais ce qu'on dit, c'est que au terme de 5 jours, après des symptômes, si on en a plus, là, par exemple pour des enfants ou des adultes au niveau scolaire, même on pourrait parler du milieu de l'éducation, du milieu de la santé, ben on invite les gens à revenir à l'école pour profiter de l'école ou pouvoir y travailler, mais en prenant les mesures qui sont appropriées, c'est-à-dire être le plus isolé possible, bien sûr, porter son masque en tout temps, manger pas en même temps ou au même lieu que tous les autres pendant quelques jours, et après ça, on va être correct. Parce que avec ça, là, on réduit beaucoup les risques de contagion et on met pas tant de monde à risque là-dessus et on gagne le bénéfice, par exemple, d'être à l'école. Si vous me parlez du milieu de la santé, c'est un peu la même chose. On le sait, d'ailleurs, aujourd'hui, le comité des infections de nosocomiales du Québec, qui est un comité savant, va dire, ben écoutez, la contagion peut durer 10 jours, puis on estime que faudrait être un minimum de 7 jours. C'est bien, on le reconnaît, on est là-dedans, et moi le premier. Et avec les autres collègues, on regarde la situation dans les hôpitaux, et vous savez, on est à risque à plusieurs endroits de rupture de service. Alors, on est capable d'inviter les gens à revenir au terme de 5 jours, et s'ils n'ont pas de symptômes, bien sûr. Et quand ils reviennent, ils sont invités à travailler dans des zones beaucoup moins à risque, donc dans des zones où est-ce qu'on a beaucoup de cas de COVID ou des cas suspectés de COVID, avec beaucoup de protection, ils mangent différemment, mais de façon plus violente.
Mais là, juste comprendre, êtes-vous en train de me dire qu'il y a une étude qui va sortir aujourd'hui qui c'est 16 jours, puis après ça, vous me dites, dans le fond, 5 jours quand j'ai pas de symptômes?
C'est-à-dire, on a bien compris avec... Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec les gens du comité d'infection nosocomiale depuis que je suis ici. Hein, ça fait 3 semaines. Et ce qu'on dit, c'est que dans la science, il est rapporté que on peut être infectieux jusqu'à 10 jours. C'est pas quelque chose de nouveau, ça. On le sait pour l'Omicron, on peut attendre d'autres études, là, mais pour la question des virus de nature coronavirus, ça peut durer une dizaine de jours. Toutefois, on a moyen d'être très sécure lorsque les gens reviennent au terme de quelques 5 jours après les symptômes. S'ils font pas de fièvre, là, depuis au moins une ou deux journées, et à ce moment-là, on est capable de gérer ça parce qu'on en a besoin de ces personnels-là. On est dans une situation où est-ce qu'on est à plusieurs endroits à très haut risque de rupture de service, et donc faut aller sur la balance des risques et des inconvénients. Et cette balance-là, moi, j'ai souvent l'impression, en fait, depuis 3 semaines, comme je dis, j'ai l'impression que je marche sur un fil de fer avec une tige de fer. Puis il faut toujours équilibrer entre les avantages et les inconvénients. Et de ce côté, je pense qu'on est très sérieux et très confiant aussi de ce qui se passe.
OK. Une dernière question. Est-ce que je me trompe si je dis que si on avait quelques centaines de lits de plus dans les hôpitaux au Québec, on est à un des endroits où il y en a le moins, avec le personnel pour traiter les patients, on aurait probablement des assouplissements plus rapides, que la pression serait moins grande sur le réseau de la santé. Puis cette pression-là, c'est parce qu'on manque de monde puis qu'on manque de lits.
Monsieur Arcan, vous avez tout à fait raison.
Donc, avec...
Vous avez raison.
Si on n'avait pas fermé des hôpitaux, coupé des lits dans le passé, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Je ne veux pas trop revenir dans le passé, parce que le Québec... Oui, mais regardez, Monsieur Arcan... Si la question est aujourd'hui, si on avait plus de lits, plus de personnel, est-ce qu'on serait dans une disposition différente et est-ce qu'on lèverait d'autres mesures? La réponse est oui, parce qu'on serait capable de gérer ce risque-là. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est pas que les gens soient malades à la maison, c'est bien malheureux, là. Et puis, il y en a qui vont être très malades et qui vont avoir une COVID longue. Donc, allez chercher votre dose de rappel ou faites-vous vacciner. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, ce qu'on doit regarder, c'est le système de soins qui continue à être fragile. Ça s'améliore, mais ça continue à être fragile. Et vous avez absolument raison, M. Arcan. Si nous avions plus de lits, plus de personnel, on pourrait lever des mesures plus vite. Et c'est ce qui se passe dans d'autres juridictions. Quand on regarde, oh mon Dieu, en Europe, telle place, le Danemark, l'Angleterre, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de lits que nous. Même l'Ontario en a quelque chose comme autour de 30 % de plus que nous, là, dans le sens au poids de la population. Alors, vous avez raison. Si on avait ça, ça irait mieux. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec, actuellement, avec tout ce qu'il voit lui-même et ce qu'on lui montre, est empressé d'augmenter les capacités du système de santé. Et ça va aller de soi et ça va progresser, j'en suis convaincu. Mais pour l'instant, on reste dans une situation fragile. Alors, vivons avec le moment présent et puis essayons de faire le mieux qu'on peut. Lever les restrictions, oui, mais tout en restant prudent, parce qu'on prend un risque. Hein, à lever ces contraintes-là qui sont imposées, on prend un certain nombre de risques, on est conscient de ça, mais il faut manœuvrer dans ce risque-là, et je pense que si tout le monde accepte de continuer à être prudent, porter le masque, d'être attentif au gym ou n'importe où, et accepte aussi d'aller chercher sa dose de rappel, on va s'en sortir solidement et rapidement.
Docteur Boileau, merci. Bonne journée.
Merci, M. Arcan.
Docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, par intérim.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Très bien. La députée Marie Montpetit siège dorénavant comme indépendante pour représenter la circonscription de Maurice Richard. On sait qu'elle a été exclue du caucus du Parti libéral l'automne dernier. Il y avait eu à ce moment-là des allégations la visant de harcèlement psychologique, d'intimidation. Elle est avec nous ce matin. Madame Montpetit, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Donc, si on remonte un peu dans le temps, vous avez été exclu par la chef pour, en fait, après ces allégations de harcèlement psychologique, d'intimidation. Vous dites qu'il n'y a aucune plainte comme telle qui a été déposée contre vous.
En fait, c'est l'Assemblée nationale qui a confirmé à 3 reprises, dont une la veille de la rentrée parlementaire, là, qu'il n'y a pas de plainte qui a été déposée à l'Assemblée nationale envers moi. Donc, c'est un grand soulagement là, suite à toute cette tourmente là, qu'il y a eu à l'automne.
OK, mais qu'est-ce que votre chef, Mme Anglade, vous a dit? Je vous fais venir dans mon bureau, j'ai des allégations de harcèlement psychologique, intimidation. Elle n'a pas pris ça dans le vent. Là. Il y avait quand même des gens, j'imagine, qui avaient signalé des choses.
Ben écoutez, moi je n'ai jamais été rencontrée par Madame Anglade. Je n'ai puis je l'ai demandé. J'ai lu la même chose que vous dans les journaux. J'en sais pas plus que ça. Quand ces informations-là sont sorties dans les médias, moi j'ai demandé immédiatement justement à être rencontrée, à être informée des faits. Et surtout à avoir une enquête là, neutre, indépendante pour faire la lumière sur toute cette question-là. Je vais faire ma pleine collaboration. Je n'ai jamais eu de retour du cabinet de la chef du Parti libéral du Québec. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'Assemblée nationale, là, qui a un processus. Et ils m'ont confirmé à plusieurs reprises, comme je vous dis, qu'il n'y avait pas de plainte qui avait été déposée.
OK. Il n'y a personne qui vous a dit, voici, on vous reproche A, B, C, il est arrivé tel événement, telle attitude, tel comportement. Jamais.
Je n'ai jamais été rencontrée concernant quelque allégation de harcèlement psychologique ou d'intimidation. Okay. À aucun moment, j'ai été rencontrée pour ça.
Sauf erreur, vous avez soutenu Mme Anglade dans la course au leadership.
Absolument.
Comment vous expliquez que celle que vous avez soutenue n'a même pas pris le téléphone pour vous appeler, pour vous confronter à certaines allégations qu'elle aurait eues entre les mains?
Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bureau de la chef. Comme je vous dis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais fait de harcèlement psychologique. J'ai demandé une enquête, j'ai demandé des explications. Je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu de réponse à cet effet-là. Mais je suis soulagée de pouvoir tourner la page sur cette question-là, mais je ne peux pas répondre pour Mme Anglade.
Avez-vous déjà crié après des employés? Avez-vous déjà harcelé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont démissionné? Avez-vous congédié? Y a-t-il du monde qui vous haït, qui ont travaillé autour de vous?
Moi, j'ai toujours fait preuve de respect envers mes collaborateurs, envers mes employés. Je l'ai dit bien, j'ai la même équipe. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir assez peu de roulement, pour ne pas dire pas de roulement du tout dans mon bureau de circonscription. Là. J'ai une équipe qui est avec moi depuis les tout débuts de mon mandat, c'est-à-dire depuis 8 ans. Là. C'est devenu une deuxième famille, même, je vous dirais. Mais j'ai travaillé avec des centaines de personnes dans les dernières années, là, dont comme ministre, comme député, comme porte-parole. Puis je l'ai toujours dit, s'il y a des gens que j'ai heurtés, moi, j'ai aucun problème à m'excuser. Je suis quelqu'un d'extrêmement parlable dans la vie. Mais je fais preuve du plus grand respect. C'est important. Là, ça va vite en politique, là, mais c'est important pour moi d'avoir une dynamique qui est cordiale, qui est respectueuse. Là.
Mais vous entendez les mêmes choses que moi, là. J'ai pas rêvé ça, là. Les rumeurs, Marie Montpetit, pète sa coche, Marie Montpetit engueule le monde, Marie Montpetit est pas fine, puis elle crie, puis elle traite les gens avec mépris. Moi, j'ai entendu ça, là. Demandez-moi pas des noms. Mais tu sais, l'espèce de bruit populaire, c'est ça, puis c'est ça qui s'est probablement rendu à Mme Anglade. Ce que vous me dites que ça tient pas la route.
Ben j'ai lu les mêmes choses que vous dans les journaux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai aussi lu des officiers du Parti libéral, dont l'ancien chef par intérim du PLQ, le président du caucus actuel, le leader, la WIP, qui ont confirmé le contraire, qui ont dit non, on ne nous a jamais rapporté okay. Ce genre d'événement-là. Mais comme je dis, je suis pas parfaite. Là. Il y a personne qui est parfait dans la vie. Moi, je le suis pas, ça je peux vous le dire. Mais je fais du mieux que je peux pour avoir une belle dynamique. Mais ça fait 8 ans que je suis élue. J'ai une réputation, je pense, qui a toujours été excellente. Il y a eu ça qui est sorti, effectivement, mais j'ai une très bonne collaboration, que ce soit avec les employés, que ce soit avec les députés aussi des autres formations politiques.
Là. Est-ce que je comprends que votre carrière politique, en tout cas, cette partie-là, va prendre fin avec les prochaines élections? Vous ne serez pas candidate libérale, serez-vous candidate indépendante?
J'en ai aucune idée à ce stade-ci, pour être bien transparente avec vous. C'est pas une décision que je pouvais prendre avant de clarifier justement le fait qu'il n'y avait pas de plainte. Maintenant que cette question-là, elle est vraiment clarifiée, là, je suis revenue à l'Assemblée nationale, je vais faire mon travail de député, puis je vais faire cette réflexion-là. L'élection est dans 8 mois, c'est encore assez long, mais ce que je peux vous dire, c'est que je termine mon mandat, ça c'est certain, j'adore ce que je fais, c'est un grand privilège de député, c'est un grand privilège d'être au service des citoyens. Je n'ai pas perdu cette passion-là 8 ans plus tard, mais quand j'aurai pris cette décision-là, je vais la communiquer publiquement rapidement. Là.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Marie Montpetit, députée indépendante de Maurice Richard.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Entre-temps, à Québec, il y a un débat en commission parlementaire sur le projet de loi 11 du ministre Christian Dubé. L'objectif du gouvernement, c'est de permettre aux Québécois d'avoir accès, première ligne, à un professionnel de la santé. Médecin, bien sûr, mais d'autres professionnels. Et entre autres, dans ce projet de loi, puis c'est peut-être le nerf de la guerre, Québec dit, ben moi, j'ai besoin de savoir ce que font les médecins, quelles sont leurs disponibilités. Bref, obtenir des infos de la Régie d'assurance maladie. La réponse des syndicats de médecins est venue très rapidement, entre autres la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui dit que il faut laisser tomber ce projet de loi, que les médecins traitent des patients, c'est pas de la marchandise et que de toute façon, ça ne marchera pas. Le président, le nouveau président d'ailleurs de leur fédération est avec nous, Dr. Marc-André Amyot. Dr. Amyot, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, pourquoi ça ne marchera pas? Pourquoi le gouvernement n'a pas le droit d'avoir accès à ces données de la RAMQ, selon vous?
Bien, actuellement, là, il y a un certain nombre de données qui sont disponibles et on n'est pas d'accord. On est d'accord avec un certain nombre de données. Ce avec quoi on n'est pas d'accord, c'est l'utilisation de ces données-là pour faire la chasse aux sorcières, pour aller gérer les plages de rendez-vous des docteurs, de dire aux docteurs, ben toi aujourd'hui là, tu vas voir plus de patients, tu vas voir plus de patients à l'heure. C'est avec ça qu'on est en désaccord. Et le projet de loi, le ministre dit, ça va améliorer l'accessibilité. Dites-moi où dans le projet de loi on voit une amélioration de l'accessibilité.
Okay,
je dois mentionner, M. Arcand, actuellement, il y en a des rendez-vous disponibles sur le net là, pour que des patients puissent prendre rendez-vous via RVSQ. Mais on ne peut pas avoir accès à tous les rendez-vous. C'est vous trouvez ça sérieux, vous, de comparer une réservation d'une chambre d'hôtel à une consultation médicale?
Mais la question, c'est pas de comparer ça à une réservation de chambre d'hôtel. Moi, je me dis juste, puis je comprends qu'idéalement, il faut que ça soit négocié, puis tout le monde... Il y a un constat, par exemple, c'est qu'il y a 800 000, 900 000 Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Ça, c'est la première réalité. Ce que je comprends, peut-être que je comprends mal, c'est que le gouvernement dit, je veux savoir si le docteur Amyot, aujourd'hui, pourrait avoir plus de patients. Y a-t-il moyen, peut-être, êtes-vous capable d'en recevoir plus aujourd'hui? Avez-vous de la disponibilité? C'est quoi vos plages horaires? Vous envoyez combien par semaine? C'est pas légitime de poser ces questions-là?
Bien, c'est pas légitime de poser la question pour faire la chasse aux sorcières de ce docteur-là en particulier. Et je vous le répète, là, on est d'accord avec l'analyse des données. Mais l'analyse des données, là, il faut l'interpréter dans le contexte de la réalité médicale et de la première ligne. Puis en passant, là, 900 000 patients en attente d'un médecin de famille, c'est pathétique, ça n'a pas d'allure. Puis il faut travailler pour trouver des solutions pour ces patients-là. Mais de faire reposer l'entièreté de cette problématique-là sur les épaules des médecins de famille, ça non plus, ça n'a pas d'allure. On ne peut plus, avec la pénurie actuelle de médecins de famille, il manque 1 000 médecins de famille au Québec, on ne peut plus assurer l'entièreté de la demande des besoins primaires de la clientèle. Il faut répartir ces besoins-là sur d'autres professionnels, pharmaciens, physiothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, etc. On est rendu là, M. Arcand. Et ce qu'on propose au gouvernement, c'est des solutions innovantes, justement, pour répartir cette charge de travail-là, qu'on n'est plus en mesure d'assumer seul.
OK. Dr. Amyot, vous venez d'arriver à la présidence. J'ai parlé avec beaucoup de vos prédécesseurs, puis c'est toujours le même discours, puis il est parfait le discours, là. On veut élargir, on veut permettre aux pharmaciens d'en faire plus. J'ai pas besoin de vous voir, je veux voir une infirmière, ça, tu sais, c'est parfait. Sauf que dans les faits, ça marche pas. Il y a quelques systèmes qui donnent des résultats, puis on le souligne, mais de façon globale, c'est comme si le discours, mais dans les faits, moi, je serais le ministre, je serais tanné d'entendre le même discours, puis ça aboutit pas.
Bien, c'est intéressant ce que vous dites, là, parce qu'il y a un projet actuellement qu'on appelle le guichet d'accès pertinence. Et ça, quand les patients n'ont pas de médecin de famille, ils peuvent appeler à ce guichet-là, et il y a un triage qui est effectué. Un triage pour orienter le patient vers la bonne ressource. S'il n'y a pas besoin de l'expertise du médecin de famille, il n'y a pas besoin de l'expertise du médecin de famille. Ça a démontré diminuer de 50 % la consultation à un médecin de famille. Mais ça, ce gap-là, là, qui est un projet pilote du Bas-Saint-Laurent, c'est extrêmement intéressant. Nous, on a adhéré à ça. Mais il faut encore que le ministère le mette de l'avant, ce projet-là, le déploie partout au Québec. Ça prend des volontés ministérielles. Ça. La balle n'est pas juste dans le camp de la FMOQ et des médecins de famille. C'est ça que je vous dis.
Okay.
Pendant la pandémie, là, le personnel qui soutient les docteurs avec qui on travaille dans les GMS, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues, ils ont été délestés en établissement pour prêter main forte. On comprend ça, on est en pandémie, c'est critique encore dans le réseau de la santé. Mais vous dites, le discours est difficilement applicable. Il ne dépend pas que des médecins de famille, M. Arcand.
Non, regardez bien. Oui, moi aussi, mais là, je veux pas tomber dans le docteur bashing. Là. T'sais, je veux bien comprendre, là, je connais des médecins.
J'espère, M. Arcand, mais... parce qu'on a assez eu à l'automne du docteur bashing. Puis je vous dis, les docteurs sont un peu écœurés de ça. Puis je vous dis, M. Arcand, ça a un effet extrêmement négatif sur l'attractivité. Pensez-vous que les jeunes étudiants en médecine, ils choisissent la profession médicale quand ils se font traiter, puis comme ils se sont fait traiter par le premier ministre? Ça, faut arrêter ça, M. Arcand. Okay. Donc, j'espère qu'on tombera pas là-dedans.
Non, mais regardez bien là. Je veux pas tomber là-dedans. OK? Les médecins, individuellement, sont impliqués, veulent le bien de leurs patients. On est d'accord avec tout ça. Sauf que les gens qui vous écoutent ce matin, là, ils se disent, on a donné des augmentations de rattrapage importantes aux médecins. On leur accorde un statut qui leur permet d'avoir des avantages fiscaux. C'est l'État qui paye, puis on n'a pas le service. Je comprends que c'est pas juste dans votre cours, mais vous comprenez aussi leur réaction d'impatience.
Je comprends leur réaction d'impatience. Puis nous, là, on veut travailler à trouver des solutions. Ça fait 6 mois qu'on essaie de proposer des choses au gouvernement et il n'est pas au rendez-vous. Et dites-moi, le PL11, là, comment il améliore l'accessibilité? Aucunement. Est-ce que le PL11, c'est un échec du gouvernement de trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité? Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que le gouvernement dit « Je ne peux pas vous offrir de collaboration pour améliorer l'accessibilité, alors je vais passer mon projet de loi 11 ou je reviens encore avec des pénalités » parce que dans le PL 11, là, on ramène la loi 20, on ramène l'air barrette, on ramène les pénalités, la coercition. Pensez-vous que ça a un effet positif, ça, sur les étudiants en médecine dans le choix de leur carrière? Moi, je peux vous dire, il n'y a pas juste la FMOQ qui a présenté en commission parlementaire. La Fédération des résidents aussi, les étudiants en médecine sont allés présenter. Vous les inviterez, les étudiants en médecine, pour vous partager comment ils perçoivent le projet de loi 11. Le Collège des médecins aussi a manifesté des préoccupations. Monsieur Arcand, c'est pas juste la FMOQ, là. C'est pas juste le méchant syndicat des docteurs qui s'oppose à ce projet de loi-là. Puis encore 2 jours d'audition en commission parlementaire. Suivez ça attentivement, puis trouvez-moi des organismes qui vont aller présenter en commission parlementaire qui disent bravo, excellent. Même le comité de protection des malades, M. Paul Brunet, disait justement hier, c'est pas suffisant.
Okay, mais...
ça n'apporte rien à l'accessibilité en première ligne, le projet
de loi. OK, on va faire une affaire avec vous. On est au mois de février, on se reparle peut-être avant, là, mais disons quelque part au mois de mai, puis vous me direz si on a trouvé des moyens. Mettons que la loi n'est pas passée, là, où il y a des amendements. Puis de quelle façon votre syndicat de médecins a participé à l'élaboration de solutions constructives pour permettre à des Québécois d'avoir enfin un rendez-vous avec un professionnel de la santé? Quelques mois, là, pas juste le discours, il faut le faire, puis il faut que ça soit ça, puis c'est notre volonté, puis c'est notre mission. Des exemples concrets où ça va avoir donné un résultat. Êtes-vous d'accord avec ça?
Bien, je suis d'accord, mais je peux vous dire, dès maintenant, là, je vous demanderais de faire pression sur le gouvernement pour s'asseoir avec nous puis en trouver des solutions. Mettre en application les solutions qu'on leur a proposées.
Mais moi, je ne mets pas de pression.
On leur a proposé des solutions.
Docteur Ramiro, moi, je ne mets pas de pression sur le gouvernement. Vous êtes un lobby important, un syndicat de médecins. J'ai entendu le syndicat des médecins spécialistes mettre de la pression sur le gouvernement. C'est vous qui en mettez la pression, c'est pas moi.
Mais M. Arcand, vous me dites, on va se reparler.
Ouais.
Les solutions, ils sont pas juste dans ma cour. C'est ça que je veux vous dire. Puis, il y a une partie du puzzle importante qui est dans la cour du gouvernement. Et ça, là, on doit s'asseoir ensemble, puis on doit manifester de la bonne volonté. Croyez-vous qu'il y a de la bonne volonté en arrière du gouvernement en faisant le projet de loi 11? C'est de la poudre aux yeux, M. Arcand, de dire que ça va améliorer l'accessibilité. C'est de la poudre aux yeux pour la population. Désolé de vous dire ça, là, mais ça n'apporte rien.
OK, Dr. Ramiot, on se reparle bientôt.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Vous aussi, Dr. Marc-André Amiot est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
Votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va dire un mot sur les Olympiques tantôt, mais avant la nouvelle hier, bien sûr, qui est tombée pendant l'émission, vers la fin. La retraite de Tom Brady.
Oui, après 22 saisons dans la Ligue nationale de football comme quart arrière, d'abord avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pendant 20 ans et ensuite avec les Buccaneers de Tampa Bay, il détient à peu près tous les records possibles et imaginables en saison régulière, en séries éliminatoires, au Super Bowl. Et là, il a annoncé hier qu'il mettait un terme à cette brillante carrière. Ça a lancé le débat. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la NFL de toute l'histoire? C'est certainement, en tout cas, parmi probablement le meilleur quart arrière, là, ne serait-ce qu'en termes de statistiques. Et il y a peu de gens, en tout cas peu de Québécois, qui ont eu l'occasion de le côtoyer. Et on a avec nous Anthony Auclair, qui a joué pendant 4 saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il a gagné le Super Bowl avec les Buccaneers. Et qui était le quart arrière des Buccaneers? C'était Tom Brady. Alors, on va aller rejoindre immédiatement Anthony Auclair. Bonjour.
Salut.
Écoute, t'es probablement le seul, à moins qu'il y en ait d'autres auxquels je n'ai pas pensé, qui a côtoyé Tom Brady sur une base quotidienne comme tu l'as fait. Quel genre de bonhomme, là, j'allais dire, dans l'intimité ou dans le vestiaire, c'est quel genre de gars Tom Brady?
C'est le coéquipier ultime, je te dirais. C'est la première fois que je l'ai rencontré. C'est lui qui est venu se présenter. C'est lui qui m'a appelé par mon nom. Donc ça, je trouvais que c'était un moment assez marquant pour moi parce que ça fait preuve de grand leadership. Je te dirais que c'était comme ça avec tout le monde. C'est sûr que là, la vie de vestiaire est un peu différente l'année dernière à cause des restrictions du COVID et tout ça. Donc, on n'a pas eu la chance de pouvoir parler autant qu'on voudrait. Mais c'est sûr que c'est le leader incontesté, for sure. Là.
Toi, tu es un ailier rapproché, donc tu joues sur l'unité offensive. Est-ce que tu avais des contacts quotidiens avec lui dans les jours, là, dans la semaine qui précédait un match?
Ben, c'est sûr que tu sais, en tant qu'unité offensive, là, on pratique toujours avec le corps arrière, les O-line, les receveurs, on est toujours ensemble. Et aussi les ailiers rapprochés, on essaie de trouver un timing avec les corps arrière, donc on court des tracés avec eux souvent. Oui, là, tu sais, quotidiennement, on était ensemble, là, ça c'est sûr et certain, du point de vue offensif. Là.
Dans le vestiaire, comme leader, est-ce que c'est le genre de rah-rah-rah guy ou bien c'est quelqu'un de plus discret que ça, un peu?
C'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui va donner l'exemple, c'est un leader, par exemple. Je pense que, tu sais, s'il avait à faire un speech, il le fait, là, c'est pas un gars, après une dure défaite, là, en 2020, contre les Saints, en prime time football, là, il nous avait donné un speech, même affaire contre les Chiefs. On avait perdu contre les Chiefs avant le bye week. On s'était fait démolir. Il nous avait donné un speech après la game, comme quoi il fallait s'améliorer, revenir du bye week top shape, prendre soin de nous. Puis comme quoi après ça, on a été invaincus jusqu'au Super Bowl. Donc tu sais, c'est dans les pires moments, là, c'est là que tu vois son vrai caractère. Là.
Mais moi, une question plus, je dirais. L'espèce de côté impressionnant que dégage une légende comme celle-là. Tu sais, tu grandis au football, puis tu fais les étapes, tu arrives dans la Ligue nationale, puis un jour, tu te retrouves dans le même vestiaire que Tom Brady. Comment tu t'es senti?
Ben pour moi, qui le détestais en vieillissant, là, parce que j'ai toujours été un gars qui préférait les équipes négligées. J'ai commencé à regarder le football, je pense que c'était en 2005, si je ne me trompe pas, le Super Bowl, Eagles, Pats. Depuis ce temps-là, mon équipe favorite était les Eagles parce que justement, c'était l'équipe négligée dans ce Super Bowl-là. C'est ça par la suite, là, c'était la rivalité chez nous. Là, mon frère, c'est un fan des Patriotes. Ma mère, c'est une fan des Patriotes.
T'étais seul dans ton coin?
Ah, ben c'est ça. Là, aussi que, ben, par exemple, que les Patriotes perdaient, là, c'est célébré. Mais tu sais, par la suite, là, tu vieillis, tu commences à respecter le talent, tu commences à respecter ce que la personne est. Puis c'est en entrant dans la NFL, là, tu vois le respect aussi qu'il y a autour de lui dans la ligue. Là, les autres joueurs, que ce soit en défensive, en offensive, dans la ligue, le respectaient beaucoup. Donc, tu sais, de jouer contre lui, de l'intercepter, tu vas voir les gars, ils vont intercepter le ballon, garder le ballon, puis aller le faire signer après le match. Là, tu vois le respect qu'il y a dans la ligue envers lui. Là, c'est vraiment impressionnant.
Dernière question, tu as été surpris quand il a annoncé sa retraite?
Ben, pour moi, surpris, non, pas vraiment. Je pense que lui, c'est un gars qui se dédie 150% à son sport. C'est quelqu'un qui chasse la perfection dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'il y a des aspects peut-être de sa vie personnelle, puis je vais pas m'avancer là-dedans trop en détail, mais je pense qu'il y a des aspects de sa vie personnelle qu'il a peut-être laissé de côté en donnant tout ce pourcentage-là à son sport. Puis je pense que ça le rattrape. C'est sûr que c'est un gars de défi. Je pense qu'il va s'en donner d'autres, mais pour l'instant, là, je pense qu'au niveau familial et personnel, là, je pense qu'il y a du temps à donner à ses enfants, il y a du temps à donner à sa famille, donc je pense que c'est ça. Là.
Ben, écoute, tu m'ouvres une porte en parlant de sa vie personnelle, bon, parce qu'il est marié avec le fameux mannequin Gisèle Bündchen. Ils ont publié plusieurs choses sur les médias sociaux. Il y a le côté glamour également de Tom Brady. Là. Ça aussi, j'imagine, ça doit impressionner. Là.
c'est pas quelque chose que moi je portais beaucoup attention. C'est ça que pour nous les athlètes puis les coéquipiers là, c'est ce qui est en tant que coéquipier, ce qui est en tant que personne, c'est pas ça va au-delà de l'image qui essaie de portrayer sur ses réseaux sociaux. Donc c'est ça que ça c'est je portais moins attention à ça.
Ben merci beaucoup Anthony.
Ben, merci boys.
Est-ce que tu vas être de retour à Houston l'an prochain?
Tu poses une bonne question, mais là, en ce moment, c'est en vacances, j'essaie de passer à autre chose, là, fait que on le sait pas.
OK.
OK, merci.
Bonne chance.
Bon, on va maintenant en parler avec Danny Machocia, qui est le DG des Alouettes de Montréal. Tu sais, quand tu regardes aller, un gars comme Brady qui se part à la retraite. Danny Machocia, bonjour.
Bon matin, comment ça va?
Bien. Comme entraîneur, puis comme maintenant directeur général, Tom Brady, là, si vous aviez à me le définir comme joueur, là, à part, disons, les clichés qu'on entend, que c'est une légende, là, c'est qui, ça, Tom Brady?
Bien, je pense que c'est un athlète qui n'était jamais satisfait, qui s'est jamais pris pour quelqu'un qui pensait qu'il était rendu. Si tu regardes son parcours, que ce soit à Michigan, quand il partageait le poste de partant, de carrière avec Joe Hansen. Il l'a pas eu facile. Et après, il se fait repêcher dans la sixième ronde, le 199e choix au repêchage. Il s'en va à New England. Il prend rien pour acquis. C'est le réserviste. Il embarque sur le terrain à cause d'une blessure à Bledsoe. Puis depuis ce match-là, tu regardes son parcours. C'est inspirant, c'est inspirant. C'est quelqu'un qui croit beaucoup dans la persévérance. C'est quelqu'un qui se prend. Il te donne pas l'impression qu'il pense qu'il s'est rendu dans la vie. Puis, ça, c'est le genre d'athlète, d'après moi, qui est tellement perfectionniste que c'est tellement difficile d'entraîner, de le coacher, dans le sens qu'il s'entend que tout le monde travaille au même niveau que lui. Alors, c'est toute une histoire qu'est-ce qu'on a vécu avec Tom Brady, puis je sais pas s'il va en avoir un autre.
Écoute, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser au football de la NFL avec Tom Brady. Mais évidemment, la NFL existait avant, et pour les plus vieux comme moi, tu sais, moi, j'ai beaucoup vibré, beaucoup plus à Joe Montana, par exemple, qu'à Tom Brady. Tu sais, t'as eu Terry Bradshaw avec les belles années des Steelers de Pittsburgh. C'est sûr qu'en termes de statistiques, il y a personne qui approche Tom Brady. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui commencent, est-ce que c'est le meilleur corps arrière de l'histoire ou le meilleur joueur de l'histoire de la NFL?
Mais d'abord, en opinion, moi, je vais dire que oui, parce que quand tu regardes, tu fais référence à les Joe Montana, à les Bradshaw, puis les Staubach, il y avait toujours beaucoup de continuité puis de stabilité dans ces organisations, que ce soit au poste de receveur, au porteur, la ligne à l'attaque. Mais tu regardes le nombre de championnats que Brady a gagné avec des différents joueurs. On parle de 232 ou 235 joueurs différents. Les receveurs ont changé, les porteurs ont changé, la ligne à l'attaque a changé. La seule circonstance, c'était qu'il y avait Tom Brady puis il y avait Belichick avec les Patriots. Alors pour moi, c'est sûr et certain que c'est une des plus grandes. Puis on va aller même un petit peu plus loin. Quand il avait 40 ans, il a changé sa méthode de s'entraîner, il a changé sa diète, il s'est adapté. Puis il n'y en a pas grand athlète dans tout sport confondu qui était capable de faire ce changement d'adaptation. Et c'est là la raison que je crois fortement que c'est parmi les meilleurs, sinon le meilleur de tous les temps.
Est-ce que tu penses que c'est important pour lui de gagner à Tampa Bay pour montrer qu'il pouvait gagner sans Bill Belichick?
Absolument, absolument. Moi, je pense que le moment que les Patriots ont repêché Garoppolo, je pense que c'est là où probablement la relation entre les Patriots et Belichick en particulier puis Brady a un petit peu changé. Puis ça démontre jusqu'à quel point que l'individu est compétitif parce que lui, il voyait Garoppolo comme son remplacement. Pas seulement il a continué de produire, il était obligé les Patriots de l'échanger parce qu'il voyait que probablement il y avait des petites frictions à l'interne. Puis là, après, quelques années plus tard, il décide de s'en aller à Tampa Bay puis de démontrer que jusqu'à quel point que c'est tout un talent puis que c'est quelqu'un qui peut faire une différence n'importe où.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Danny.
Un gros merci. Bonne journée.
Merci, toi aussi.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.